Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée, il est l'heure Monseigneur. Aujourd'hui j'ai le plaisir et une joie immense de retrouver Josiane derrière le micro. Bonjour Josiane.
Bonjour tout le monde, moi aussi je suis contente d'être là.
Ça faisait un petit moment et voilà, on a plaisir à repartager ensemble. Alors aujourd'hui ça va être encore une équipe réduite puisque nous sommes que tous les deux, Josiane, donc Raphaël pour vous servir. Et Josiane, notre encyclopédie vivante.
Oui, pour boucher les trous.
Donc, on salue nos compères Ricardo, Jean-Jacques et Marc qui nous rejoindront, j'espère, sur les prochaines émissions.
Entendu.
On va commencer tout de suite avec une chanson de l'année mystère. Il s'agit de Jean-Michel Jarre, Équinoxe 4. Ça donnera déjà une indication pour la suite. À tout de suite.
We'll be right back.
C'était donc une chanson de Jean-Michel Jarre de l'année mystère. Josiane, alors cette fois on était nés tous les deux sur cette année mystère. Je ne sais pas si ça va aider nos auditeurs, mais voilà. Josiane, toi qui as des souvenirs plus précis que les miens.
Alors, tu parlais du féminisme tout à l'heure. C'est vrai que cette année-là, Madame Thatcher, Premier ministre en Angleterre, c'était quand même un événement. Surtout qu'on avait Renaud qui ne s'est pas privé de reprendre ça dans une de ses chansons.
C'était politiquement incorrect.
Ah oui, tout à fait. Et puis, on avait également Madame Veil qui a été élue présidente du comité européen ou je ne sais pas quoi. Donc, c'était quand même important. Et puis, puisque je suis dans le féminisme, une émission à la télévision qui démarrait, pour certains ça m'a parlé, c'était Les Dames de la Côte. Avec, alors j'ai pu relever, mais il y avait 4-5 actrices vraiment très réputées. Donc ça...
C'était une version française des Drôles de Dames ?
Oui, c'était moins drôle que les Drôles de Dames. Mais c'était ça évoquait aussi tout un milieu, toutes les habitudes. Et bien évidemment, t'avais l'aïeul, la grand-mère, la mère, les petites filles et tout ça. Donc il y avait les générations qui s'affrontaient. Les jeunes avaient la voix moins haute que maintenant. Hein, Mais il y avait quand même de l'animation et tout ça. C'était vraiment assez agréable.
Alors,
quoi.
Tu le dis avec les jeunes moins hautes, mais j'ai envie de dire, à l'époque, on avait quand même plus une liberté de ton et d'expression qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, malgré tout.
Ah bon ?
Non, ça ne te donne pas ce sentiment-là ? Tu penses qu'on peut tout dire comme on veut aujourd'hui ?
Autour de moi, j'ai l'impression que oui, on peut tout dire, n'importe quoi. Ça dépendait peut-être aussi des foyers, c'est vrai. Hein. Et puis peut-être qu'à cette époque-là, les filles n'étaient peut-être pas encore autant libérées que maintenant. C'était peut-être plus les garçons à l'adolescence qui se rebiffaient, parce que en ce qui les concernait, il y avait des changements. Hein.
Oui.
Tu parlais tout à l'heure des punks. C'est vrai qu'il y avait plein de choses. Voilà. Alors moi aussi, en dehors de ces femmes, quelque chose qui avait beaucoup marqué les Français, me semble-t-il, c'était la mort de Jacques Mesrine,
oui.
Hein, qui faisait parler de lui très souvent, qui était pris, qui s'évadait, qui était repris, qui refaisait des trucs. Et à mon avis, ceux qui l'ont cueilli, ils les ont pas dit halte là, c'est la police.
Tu,
hein.
Tu dis comme ça, toi, le cueillir.
Oui.
C'est marrant,
enfin,
c'est comme, pas l'idée que j'en ai.
Oui,
moi.
Mais comme un fruit mort, hein, plutôt.
Alors, pour les plus jeunes, effectivement, Jacques Mesrine, c'était l'ennemi public numéro 1.
Ah oui, tout à fait. Il avait fait des trucs absolument épouvantables. Et c'était les tueurs d'élite et les policiers qui sont allés le cueillir. Puisqu'on était dans les fleurs, le cueillir. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, moi aussi ? Bah oui, il y avait quelque chose aussi qui, me semble, avait intéressé pas mal les Français. Le paquebot France devient le Norway.
Eh oui.
Et donc ça avait fait notre beau paquebot.
Le France qui a été le plus long paquebot, voilà. un long moment.
Et alors qui a entraîné une chanson d'un chanteur qui était trop qualifié de droite et qu'on interdisait. Pas officiellement, mais les journaux et tout ça, voilà. Et donc, ça a permis cette chanson, alors comme tu l'as pas repris là-dedans, de Sardou, Ne m'appelez plus jamais France.
Ouais.
Voilà, ça a été vraiment.
Ça a été aussi un tournant industriel, hein, parce que, effectivement, ces grands projets que nous étions capables de faire à cette époque, ça a été, on va dire, la fin d'une décennie, le début d'une nouvelle. on commence à orienter un petit peu, on est à une date charnière.
Oui, tout à fait.
Les projets industriels étaient, on va dire, différents. Voilà,
oui, oui, oui.
En termes d'événements plus locaux, moi, la seule...
Alors, moi, j'avais moins suivi...
Le seul événement que j'ai noté pour les Angevins, c'était l'achèvement du pont à Montjean-sur-Loire. Alors, ça paraît anodin, mais quand on peut éviter faire une boucle de plus de 20 km, ça rend des services.
C'était appréciable, tout
donc,
à fait.
C'était dans l'année mystère, qu'on précisera tout à l'heure.
Tout à fait.
En termes de télé, moi j'ai une culture assez télé.
Alors, moi en dehors des Dames de la Côte, puis celui que tu avais, les Bob
voilà, on a deux jumeaux qui faisaient cette année-là.
Les Bob Danoff.
Ils faisaient cette année-là leur première émission de Temps X.
Ah, oui, oui, oui.
Alors, Temps X, c'était une émission axée sur la science.
Oui. Un peu l'espace.
L'espace, les grandes performances.
Les planètes. Et
le fait est, alors moi j'ai été très surpris en préparant l'émission, c'est-à-dire qu'ils sont nés en 1947, Ivan et Igor Bogdanov. Donc ils ont un certain âge, je ne pensais pas qu'on pouvait faire autant de chirurgie esthétique jusqu'à cet âge. Voilà.
Ben, au moins le prix a été bien rentabilisé.
On va s'en rappeler plus pour leur apparence que pour ce qu'ils ont fait.
Moi, ce qui me frappe toujours, c'était leur menton. Hein. Mon Dieu. Bon. Je te tiens par la barbichette, il y avait de quoi.
Bon, après, cette année mystère, on a eu des naissances, on a eu des décès.
Oui.
Pour les plus jeunes, cette année mystère, c'était l'année de naissance de Soprano, voilà, qui fait partie des plus gros vendeurs actuels. Il y a eu aussi des décès, et pas des moindres.
Disons que pour les vieux, entre guillemets, mais enfin encore qu'il est John Wayne, ça c'est sûr que c'était tous les westerns et tout ça. Alors il paraît que il n'était pas marrant comme homme, mais au niveau acteur, c'était sensationnel. Hein. Enfin, pour ceux qui aimaient il a pas fait que des westerns, mais enfin, c'était surtout ça, quoi.
Bon, ok. On va s'arrêter, faire une petite pause musicale, et puis on revient tout de suite. Alors, donc, la pause musicale, il s'agit de, je ne vous dise pas de bêtises, j'écoute de la musique soul de Françoise Hardy. À tout de suite.
Les scarabées d'or, tout dit, ensemble.
Alors Josiane, penses-tu que cette chanson va aider nos auditeurs à retrouver l'année mystère?
Je ne sais pas.
Bon, on s'en dira un tout petit peu plus après. On n'a pas Jean-Jacques avec nous aujourd'hui, mais il nous a envoyé une petite chronique qui porte sur l'alimentation et le bio. Je vous propose de l'écouter tout de suite et puis on en discute avec Josiane derrière. À tout de suite.
Ok.
Alimentation. Pour l'UFC Que Choisir, les labels sans traces de pesticides, c'est mieux. Les producteurs de fruits et légumes sont de plus en plus nombreux à convertir leur exploitation dans une culture sans pesticides. C'est une démarche moins exigeante que le bio, mais tout de même certifiée par de nouveaux labels. Les essais confirment une bien meilleure qualité pour le consommateur. De nouveaux labels sont apparus en fruits et légumes frais dans les étals. Ils garantissent des aliments sans traces de pesticides. Les résultats des études menées sur ces produits confirment globalement l'absence de traces. Ce ne veut pas dire que des pesticides n'ont pas été utilisés en culture, mais au moins ils n'ont pas migré dans la récolte. Cette nouvelle démarche culturelle permet à un plus grand nombre de producteurs d'améliorer la qualité de leur production sans les investissements et risques de la certification bio. En effet, la conversion d'une exploitation au bio demande au moins 3 années d'application des exigences du cahier des charges avant de vendre les fruits ou légumes en appellation bio. La méthode consiste à supprimer l'emploi de pesticides de synthèse, au moins dans certaines des phases de culture. Le pictogramme « Cultivé sans pesticides » des marques comme Carrefour, Nature et Saveur ou Demain la Terre garantit ainsi qu'aucun produit phytosanitaire chimique n'a été utilisé dans les derniers stades de culture. Un autre label promet des fruits et légumes sans résidus de pesticides, sans autre précision sur les procédés de culture. Il certifie l'absence de traces chimiques indésirables dans les produits mis en vente. Un tel résultat nécessite forcément de recourir à d'autres moyens que les intrants de synthèse. Il serait remplacé par du désherbage mécanique ou des pesticides naturels, comme ceux admis dans l'agriculture bio. Les grandes marques accompagnent cette démarche. Picard, Bonduelle, Panzani, Florette ont considérablement étoffé leur gamme de fruits et légumes sans résidus. Les consommateurs, eux, soutiennent la tendance en acceptant de payer un peu plus cher pour une garantie qu'ils estiment sans doute proche du bio. En outre, les tests réalisés par Que Choisir leur donnent plutôt raison. À l'issue d'une première approche, 3 produits seulement sur 42 analysés pouvaient présenter des traces quantifiables de pesticides. Même dans ce petit nombre de cas, les quantités relevées étaient très inférieures à celles de l'agriculture industrielle.
Merci Jean-Jacques pour tout cet éclairage. Josiane,
oui,
on a un intérêt, c'est qu'on mange tous, donc on a tous un avis sur la question.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je suis un petit peu réservée par rapport à tout ça, parce que je me dis, mon Dieu, si le voisin, lui, il emploie des pesticides et qu'il y a le vent qui se lève, qu'est-ce qui me garantit ? J'avoue aussi que sur les marchés, quand on me dit sans pesticides et autres, je m'interroge toujours, quoi. C'est une bonne démarche, de toute façon.
Pour ma part, j'essaye effectivement de trouver des produits plutôt bio ou d'agriculture raisonnée, ce qui n'est pas la même chose. Mais dans tous les cas, dans mon alimentation, j'essaye toujours de prendre les produits les moins transformés possibles. Après, on ne maîtrise pas toute la chaîne.
Et les produits aussi plus de saison, c'est-à-dire que pas manger des tomates au mois de décembre, voilà.
J'étais outré parce qu'on est quand même dans une région, on va dire, très, très productive, maraîchage et des fruitiers.
On est très bien lotis.
Et quand je vois des pommes sur les étals qui viennent d'Amérique du Sud, je ne comprends pas le système.
Tout à fait. Autant un ananas, ça se produit pas particulièrement chez nous, mais il y a plein de choses, effectivement. Et puis peut-être aussi que ça nous aide à retrouver des légumes un peu de jadis, qu'on a oubliés, qu'on ne sait plus comment trop cuisiner et tout. Et je trouve que c'est une bonne chose.
Oui, c'est vrai qu'on revient peut-être à des produits plus basiques,
oui.
Mais le bio me semble pas la solution à tout, malheureusement.
Non.
Parce que on est quand même 7 milliards d'individus sur Terre.
Ah oui, et puis c'est vrai qu'au niveau du porte-monnaie, il y a quand même ça compte. Hein.
Et puis j'ai envie de dire, le marketing a bien travaillé aussi. Oui. Est-ce qu'on nous vend pas toujours du bio surdosé, on va dire?
Oui.
Je suis parfois très surpris sur certains étals de marché de trouver des produits estampillés bio. Qui sont parfaitement calibrés.
Tout à fait. T'as pas des tomates biscornues, c'est bien. C'est vrai.
Donc,
On s'interroge, quoi, en se disant, ah bon.
Bon, c'est bien, c'est bio, c'est boche. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut dire.
Puis attention, l'expression c'est boche.
Bon, on va écouter tout de suite le troisième morceau. Il s'agit de Pierre Perret avec Estelle.
Si vous voyez Estelle, dites-lui mes amis, combien je suis fou d'elle, comment je suis puni, que ça n'a rien de drôle de se la mettre sous le bras en cherchant du pétrole dans le Guatemala. Si vous voyez Estelle, dites-lui mes amis, que je bande pour elle, que j'en perds l'appétit, qu'on se remettra ensemble, que je m'avoue vaincu et que j'ai les mains qui tremblent quand j'évoque son cul. Dites-lui que je suis lucide depuis que je l'ai quitté, que j'étais bien trop candide, que j'aurais dû l'écouter, et que cette fille superbe qui m'amena en bateau, je n'ai su qu'à l'île d'Elbe que c'était un travelot, que ça les a bien fait rire, que ces salauds m'ont gardé sur ce petit navire bourré de vieux peinés, et que jusqu'en septembre sur ce maudit rafio, j'étais la femme de chambre du lieutenant de vaisseau. Si vous voyez Estelle, dites-lui que je me suis trompé, que je ferai tout pour elle, toujours le dos courbé, rien qui ne lui déplaise, mais que le dimanche matin, si c'est debout qu'on baise, je prendrai les patins. Dites aussi à Estelle que ma virilité est bien redevenue telle qu'avant de la quitter, bien que cette foutue danseuse des ballets de Hong Kong m'ait laissé les valseuses comme des balles de ping-pong. Si vous voyez Estelle, dites-lui bien surtout que j'aimerais sa cuisine, que je serai plus jaloux, et que si encore elle m'aime, que j'en serais si content, que j'oublierai le nom de baptême de son putain d'amant, qu'elle aura toute ma paye pour sortir quand elle veut, que c'est fini la bouteille, que je triche plus au jeu, que ma vie est amère, qu'il faut que l'on renoue. Dites-lui même que sa mère peut habiter chez nous. Si vous voyez Estelle, dites-lui mes amis, combien je suis fou d'elle, comment je suis puni, que ça n'a rien de drôle de se la mettre sous le bras en cherchant du pétrole dans le Guatemala.
Ouais, une petite chanson grivoise comme on n'en fait plus. Hein.
Oui, mais ça me fait penser à une chanson de Dalida qui dit paroles, paroles, paroles. Parce que...
C'est peut-être dit dans d'autres termes.
Tout ce qu'il promet, là, à mon avis, il ne tiendra pas tout.
Bon, dans tous les cas, effectivement, Pierre Perret, un chanteur de l'année mystère aussi, très populaire, je crois, et qui traverse les époques.
Ouais.
On n'a pas d'invité cette semaine, mais on voulait continuer l'émission en parlant de pour ou contre. Alors aujourd'hui, on est sur un sujet sensible. Hein. Avec Josiane, on va avoir des positions probablement radicalement différentes. Mais c'est ça qui est intéressant. Alors, pour ou contre la dématérialisation ? Alors, ça, c'est un vaste sujet. Moi, la première question que je me suis posée, finalement, Josiane, c'est quand est-ce qu'on a commencé à matérialiser les choses ?
J'en sais rien.
Hein ? Et je me suis dit... Tiens, c'est marrant parce que en termes de matérialisation, alors matérialisation, ça peut être aussi bien des documents, d'informations, ou ça peut être des enregistrements audio, ça peut être des enregistrements de théâtre, des films, et voilà. Oui, bah, aujourd'hui, toute la culture peut être dématérialisée.
Oui.
J'ai noté dans mes recherches que le premier enregistrement audio datait de 1878.
Bah, dis donc.
Voilà, donc c'est pas tout jeune, hein,
non.
Mais ça tenait bien sur un support très physique, celui-ci. Hein, et finalement, l'accès à la culture, c'était le support reproduit presque à l'infini. Ça a été quoi ton premier album, toi, par exemple, Josiane ? Quel album de musique t'as pu acheter ?
Alors, que je me suis fait offrir quand j'étais relativement jeune. Oh, j'avais 15-16 ans parce que, habitant à la campagne, bon, puis des moyens, enfin bref. Donc, pour me faire plaisir, mes parents m'avaient offert un électrophone et c'était du jazz. Parce que j'aimais beaucoup le jazz et c'était Sidney Bechet.
Petite fleur.
Voilà.
Bon, forcément, voilà. Bon choix.
C'était, ouais.
Bon. Et moi, alors qui suis un peu plus jeune, mon premier album, c'était un CD qu'on aura le plaisir d'écouter tout à l'heure avec la chronique de Jean-Jacques, qui nous a quand même fait l'album de l'année mystère.
D'accord.
Je ne vais pas le dévoiler tout de suite, on va vous laisser un peu de suspense. Donc, bah, effectivement, matérialiser, c'est une chose, dématérialiser, c'est à l'inverse. Aujourd'hui, on est un peu dans le tout dématérialisé, ce qui peut poser quelques problèmes. Ça a certainement des avantages et quelques inconvénients.
Oui, d'abord, ça prend moins de place.
Alors ça, c'est évident.
Voilà, tout est... moi, je suis pas très, très, très micro, enfin bref, tout un tas de trucs. Mais c'est vrai que pour ranger les archives, les souvenirs, les trucs comme ça, c'est vrai que l'ordinateur, c'est important. Et tu y retrouves plus facilement les choses que d'avoir à ouvrir 5 boîtes d'archives où tout n'est pas très bien. Donc ça, je trouve que c'est effectivement important.
Alors, il me semble que ça modifie aussi nos usages, parce que si on prend les albums photos, moi j'ai souvenir dans mon enfance qu'en famille, on pouvait sortir les albums photos et tout le monde se mettait autour et on avait un échange autour.
Et alors ça me manque justement.
Ouais.
Ma fille m'envoie sur ordinateur une photo qu'elle a prise avec son téléphone portable. D'ailleurs, je me demande si ça sert encore à téléphoner le téléphone, parce qu'il sert à tout.
C'est ça.
Voilà. Mais j'avoue que moi, j'aime bien avoir entre les mains les photos. Pour moi, personnellement, si je suis toute seule, je passe une soirée, je regarde ça. Ou au contraire, je vois, pendant les vacances, j'ai eu ma nièce qui était là. Je lui ai ressorti toutes les photos de sa jeunesse avec les mamies et tout ça. Ça a été le moment d'évoquer de bons souvenirs et tout. Moi, ça me manque, ça.
Alors, les photos, c'est une chose, la musique, c'en est une autre. Aujourd'hui, il existe des plateformes d'écoute en ligne. C'est-à-dire qu'à partir d'une connexion Internet, on a accès quasiment à tout un catalogue de musique du plus ancien au plus récent, hein. Mais justement, moi, ça me semblait un avantage de la dématérialisation, d'avoir accès à des archives auxquelles on n'avait pas accès auparavant.
Oui,
je pense à l'INA, l'Institut National des Archives, qui nous permet de retrouver des choses de, aussi bien de l'avant-guerre, pratiquement, jusqu'à aujourd'hui.
Bien sûr.
Et ça, c'est quelque part, c'est un bien commun auquel on n'aurait pas forcément accès. Si je reprends les méthodologies des années 80 où j'étais minot, se déplacer à la bibliothèque, c'était pas possible pour tout le monde.
D'accord. Hein? Mais j'avoue que moi, par exemple, quand je vois la dématérialisation des livres, c'est pas évident de faire lire un livre à un enfant relativement jeune,
oui.
Mais avec ces choses-là, maintenant, ça devient... je trouve qu'il y a de bons côtés. Quelqu'un qui est aveugle, qui peut pas lire, tout ça, qui a des gros problèmes, c'est très important de pouvoir avoir accès.
Tu donnes un parfait exemple sur lequel je peux témoigner. J'ai pour ma part une liseuse qui n'est pas du tout une tablette. Hein, c'est un autre
support.
Écran. Et ça a une lecture proche du papier. C'est pas la même chose évidemment, mais c'est un support très proche du papier, beaucoup plus que l'écran d'ordinateur ou de tablette classique. Et j'ai une amie qui est malvoyante, et l'avantage de la liseuse, c'est qu'on peut grossir la taille des caractères autant qu'on veut.
Tout à fait.
Donc en termes de lisibilité et d'accessibilité, c'est bien mieux.
Oui, tout à fait.
On peut lire avec un écran dont on augmente plus ou moins la luminosité,
oui.
Mais par exemple, autant il y a des écrans qu'on ne peut pas lire au soleil, la tablette, on le peut, enfin la liseuse, pardon, on le peut.
Et
ça, c'est vrai, c'est un vrai support.
Ah oui.
Je parle de la tablette et de la liseuse, je fais bien la distinction. Il y a des compagnies aériennes qui ont remplacé les manuels de bord des pilotes et copilotes par des iPads.
D'accord.
Un iPad, ça pèse 600 grammes. Eh bien, grâce aux tablettes, ils ont économisé 16 kilos de papier dans le cockpit.
Waouh !
C'est...
Pour un avion, c'est énorme. Hein?
Exactement. Pour transporter 16 kilos, il faut dépenser de l'énergie.
Oui,
donc, ils ont considéré que c'était la bonne chose. Et puis, un des avantages, c'est aussi la recherche. C'est-à-dire qu'au moment où le pilote, copilote a besoin de rechercher, il est plus facile de rechercher sur une tablette que dans des manuels papier où il faut aller au sommaire, trouver la page. Enfin, ça peut prendre du temps.
Bien sûr.
Donc, c'est un des avantages. Il y a quand même des inconvénients.
Ben, je te dis, moi, dans la mesure où, effectivement, par contre, ceux qui n'ont pas de problème de vue délaissent les bouquins, parce que moi, le plaisir de tourner une page en papier et tout ça, c'est quelque chose de tactile, et la dématérialisation, à la limite, tu serais manchot, ce serait très bien, quoi.
Le premier inconvénient, pour moi, ça reste quand même l'équipement. C'est-à-dire qu'il faut des équipements, et ça, aujourd'hui, c'est pas accessible à tous. Si on prend les impôts, effectivement, quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur aujourd'hui, il est obligé de demander de l'aide pour remplir la procédure.
Ou se déplacer, prendre un rendez-vous.
Voilà.
Bien sûr.
Je ne sais pas si c'est simplifier les choses. C'est certainement faciliter le traitement de l'information pour celui qui l'utilisera, à savoir l'État. Mais en termes de convivialité, le papier avait quand même son intérêt.
Oui.
L'autre risque de la dématérialisation, c'est la consommation électrique. C'est toujours des interfaces électroniques qui consomment du courant. Et là, là-dessus, je n'ai pas trouvé, moi, de données chiffrées qui me permettraient de dire que, certes, on consomme moins de papier, mais on consomme plus d'électricité.
Oui, parce que par rapport à ton écran, est-ce que tu n'es pas obligé d'avoir une puissance supérieure ? Plus tu l'utilises à ça, plus il te faut des mégas, des gigas, je ne sais pas trop quoi.
Pour le coup, je n'ai pas trouvé de chiffres qui permettent d'argumenter dans un sens ou dans l'autre.
Mais les abonnements aussi n'ont pas le même prix. Hein.
C'est ça. Et puis, le risque aussi, c'est le risque d'obsolescence. On parlait des photos tout à l'heure. Les pellicules, on pouvait les reproduire longtemps.
Tout à fait.
Si certaines, effectivement, diminuaient un peu en qualité avec le temps. Mais,
on trouvait des photographes qui te restaurent des photos.
Et donc, effectivement, l'évolution des formats informatiques fait que faut espérer que ce que l'on télécharge aujourd'hui sera toujours utilisable dans 20 ans. Ça, c'est pas garanti, malheureusement. Les standards évoluent, eux aussi.
Et puis, comme je disais tout à l'heure, ma méfiance par rapport aux produits, ma méfiance aussi, c'est que tu peux te faire pirater n'importe quoi. Hein.
Alors, voilà. Oui, c'est vrai, alors, mais j'ai envie de dire comment on peut se faire cambrioler, Josiane.
Oui, mais enfin, le cambrioleur, il ne viendra pas te chercher tes photos et tout ça, non. A priori. Tandis que là, quelqu'un te pirate ton ordinateur, j'en parle en connaissance de cause parce que je ne suis pas une accro d'Internet et tout un tas de trucs. N'empêche qu'il y a un petit malin qui est rentré, qui m'a tout pris, mes adresses, tout.
Alors ça, c'est effectivement un autre risque où il faut pouvoir prévenir de certains usages ou de malveillance.
Oui. Mais ou alors l'usage d'un disque dur externe pour enregistrer ça et puis éventuellement
Alors la sécurité, j'ai envie de dire, c'est à la fois une faille et à la fois un intérêt parce qu'on peut quand même sécuriser certains dossiers. Ça demande des compétences, c'est ça le problème. Effectivement, c'est pas accessible à tous. Ouais. Hein, ça c'est une réalité.
Et puis c'est vrai que ça isole quand même parce que de la même façon que on est plusieurs à regarder les photos, les choses comme ça. Quand on est sur l'écran, on ne peut pas être quatre autour de toi. Donc, il y a une certaine solitude qui s'installe.
Oui, c'est vrai. Mais après, c'est aussi l'occasion de partager des choses. Tu parlais de ta fille qui t'envoyait des choses depuis son téléphone. Alors, c'est, ça n'a pas le même agrément que la photo qu'on touche. Mais après, on peut malgré tout toujours matérialiser les choses, les imprimer. Et puis...
Oui, comme avec machin, webcam ou je ne sais pas quoi, tu peux voir ton interlocuteur à l'autre bout. Bon. Je suis née dans une famille, comme disait quelqu'un, où on est très tactile et sensoriel.
Ben oui.
Alors, c'est vrai que c'est une révolution, ça.
Ben, faut dire ce qu'il y a, hein, Josiane. On a plus plaisir à être ensemble dans la même pièce que comme on a fait en 2020.
Ben oui, hein, par écran interposé. Mais c'est vrai que c'était quand même un moindre mal.
C'est ça.
C'était ça ou la solitude complète.
On est d'accord.
Alors, dans les maisons de retraite, les EHPAD et tout, pouvoir voir quand même ses enfants et ses petits-enfants à travers un écran, c'était mieux que rien du tout.
Hein. Je le crois. Josiane, on va écouter tout de suite Jean-Jacques qui va nous parler de l'année mystère et je vais lui laisser la joie de nous la dévoiler. Hein. On se retrouve tout de suite après et on en reparle.
Durant l'année 79, beaucoup de grands albums nous ont enchanté les oreilles. Au niveau international, The Wall, The Pink Floyd, mais aussi le Highway to Hell d'ACDC, et oui. Puis encore London Calling des Clash, le Regatta de Blanc, le deuxième album de Police avec son message dans une bouteille, le Breakfast in America de Supertramp, Communiqué de Dire Straits, Broken English de Marianne Faithfull. En France, eh bien, le Aux Armes, etc. de Gainsbourg, Ma gonzesse de Renault, Crache ton venin de Téléphone. Donc, du choix et du bon. Et la liste est longue. Mais j'ai choisi un autre grand disque. J'ai dit un, alors qu'en fait, il y en a deux. Que son génial auteur a fait paraître quasiment en même temps. Je veux parler de Champagne pour tout le monde et de Caviar pour les autres. Du grand Jacques. Jacques Higelin. Ils sont liés d'une certaine manière, ces deux albums, mais différents. Je vais vous parler du premier car personnellement, c'est celui que je connais le plus. Celui que j'ai le plus écouté, c'est celui qui m'a vraiment transporté le plus dans les délires hilarants, picaresques et poétiques auxquels Crabwiff nous a habitués pour notre plus grand plaisir. Ça a été longtemps son surnom, surtout à l'époque où il composait le beau trio avec Brigitte Fontaine et Areski. Mais je ne vais pas faire l'historique de Jacques Higelin, il est riche et long, car commencé tôt, donc il y a longtemps, à la fin des années 50. Alors pour l'album Champagne, c'est parti. Et je sais que ça va faire plaisir à Raphaël, car il m'a dit, ça a été son premier album, son premier 33 tours, et ça marque. Et ce, pour quelques titres, attention, pas tous, car Jacques Higelin était un artiste généreux en qualité et en quantité, comme dans ses concerts auxquels j'ai assisté et qui pouvaient durer plus de 3 heures, alors que même ses musiciens partaient boire un coup avant de revenir pour conclure le spectacle. Quand il revenait, Higelin terminant souvent seul au piano en plein délire musical et souvent dans la veine du « y a de la joie » de traîner qu'il vénérait. Le titre de la chanson qui donne son nom à l'album, Champagne. Pour moi, c'est d'ailleurs un lien entre le jardin extraordinaire de Charles Trenet et le Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Mais là, je divague peut-être.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse.
Autant les arrangements musicaux de ce premier titre sont riches, complexes, autant l'arrangement, l'accompagnement du deuxième Cayenne est minimal. Quelques percussions avec un jet d'urine, avec soupir de délivrance pour terminer cette chanson d'un bagnard qui casse des cailloux.
Cayenne, c'est fini.
Le troisième morceau, Tête en l'air, est joyeux, poétique et léger comme une chanson de traînée. C'est l'hurluberlu qui sifflote et c'est attendrissant. Dans mon aéroplane blindé, sur une rythmique syncopée, le son est lourd et plutôt rock. Bruit d'un moteur diesel d'avion, voix criarde et rigolote avec une chute marrante. Dans Alala, quelle vie que cette vie, Higelin joue beaucoup sur la sonorité des mots et c'est toujours marrant. Ça aussi. All Tight est un vieux morceau des années 40 des Andrew Sisters. Il en fait dans cet album une reprise également très dynamique, comme l'original, mais avec un son un peu piano bastringue, piano bar. Sympa. Dans son disque Higelin à Mogador, il en fera un délire en complicité avec le public, comme il en avait l'habitude. Les deux derniers titres, Captain Bloody Samurai et Vague Alarm, sont aussi excellents, dans la grande tradition des chansons de Jackie Chan. Et en parlant de ça, ce dernier titre me rappelle La Rousse au chocolat, dans son disque Alerter les bébés. Mais ça, comme j'aime à le dire, ce n'est que mon âme la vie. À bientôt!
Et oui, Jacques Higelin, personnellement, c'est vraiment un de mes chanteurs français préférés. Et j'ai envie de dire, la relève a vraiment pris la suite, puisque son fils Arthur H. et la chanteuse Isia sont aussi très talentueux, à mon goût. Est-ce que tu as un souvenir à nous confier sur l'année 1979 ?
Non, pas particulièrement.
On a parlé brièvement tout à l'heure des chocs pétroliers et des changements de consommation des Français.
Oui.
Bon, moi, je voudrais juste rendre un petit hommage. En 79, j'avais 5 ans. Et je voudrais... j'ai une maîtresse que j'aimais beaucoup.
Ah bon, à cet âge-là ?
Ouais. Donc je me souviens seulement du prénom, c'était Christiane.
Oui.
Et je pense que voilà, ce sont des gens qui font aimer l'école aux enfants.
Oui,
et,
tout à fait.
Et c'est vraiment un doux souvenir pour moi, ces années-là.
Et c'est vraiment un cadeau d'avoir une institutrice comme ça qui nous aide. Moi, beaucoup plus tard, j'étais en cinquième, quelque chose comme ça. J'ai eu un prof de littérature extraordinaire et j'aimais déjà un petit peu, c'est pour ça que voilà. Mais elle a développé ça. Et c'est vraiment très important.
Hein. Alors, je balance mon prof de français, Monsieur Grelier, moi aussi. Alors, oui. Non, effectivement, il y a des gens qui font aimer les matières et l'école, et c'est important. Josiane, en 79, toi, tu n'allais plus à l'école. Hein.
Non. j'étais maman. À la fois, je travaillais et j'avais une petite fille de... Ah oui, celui qui chante les trucs sur le Canada et tout ça, comment il s'appelle, je ne sais plus, c'était... On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Joe Dassin.
Voilà.
Ben voilà.
Et alors, il y avait ma fille qui avait entre 12 et 14 ans qui disait « Oh, qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il soit mon papa
?» Ben, pas de chance. Josiane n'avait pas fait la bonne rencontre au bon moment.
Non, tout à fait. Je travaillais à la chambre de commerce, alors on était plus axé sur l'arrivée des grandes surfaces au détriment du petit commerce local et tout ça. C'était plutôt les chevaux de bataille, ouais. Quoi.
Josiane, je propose qu'on fasse, par souci de parité, qu'on écoute une nouvelle chanson féminine de Véronique Sanson. Hein. On se retrouve tout de suite après.
Regarder la vie dans les yeux, c'est pas facile de se sentir heureux quand on se
oui, Véronique Sanson, 1979, c'était bien vitaminé comme son, ça. Hein. Josiane, toi, tu te rappelles de cette chanson-là ?
Ah oui. Je me rappelais pas du titre, mais si, je me souviens bien d'elle.
Alors, faut pas que je dise des bêtises sur le titre. Ceux qui naissaient pas, tout simplement. Moi, je trouve que c'est toute une promesse, ce titre. Ceux qui naissaient pas.
Ah, d'accord.
Voilà. Ceux qui ne laissaient pas, ils ne réussissent pas.
Quel dommage.
Hein. Voilà.
Faut essayer.
Faut oser. Au pire, on se trompe et on recommence.
Et on tire profit du fait qu'on s'est trompé. On recommence rarement exactement la même faute. Hein.
Voilà.
On fait d'autres, mais...
C'est Henry Ford qui disait qu'il y avait mille façons de ne pas réussir.
Ah oui.
Voilà.
Et le plus triste, c'est de ne pas avancer.
Exactement.
Voilà. Ah. Si l'enfant qui se casse la figure à ses premiers pas, il arrêtait, ce serait vraiment dommage.
Josiane, on va arriver bientôt au terme de cette émission. On a l'habitude de faire un agenda de la semaine. Cette émission enregistrée est diffusée le 4 octobre, on est le lundi, et c'est la semaine bleue. Donc, dans tous les CCAS du département, pratiquement, il y a des animations qui vous sont destinées, que ce soit à Angers, moi je vais participer à Rive-du-Loire en Anjou, mais j'ai également eu des échos sur Loire-Authion, j'ai eu des échos sur Chevilly-en-Anjou,
Avrillé. Fait aussi des choses.
Il y a vraiment une semaine bleue dynamique beaucoup de communes, donc rapprochez-vous de votre CCAS, relisez votre bulletin municipal qui a pu être distribué récemment, et je suis certain qu'il en sera mention. Voilà, dans tous les cas, je vous invite vraiment à participer pour pouvoir aborder des sujets qui vous sont utiles ou précieux, et puis rencontrer du monde, ça fait du bien de rencontrer du monde.
Oui, puis rire un petit peu, parce que le rire, c'est quand même important dans la vie.
On vient de vivre 18 mois un peu compliqués, et bien là, il s'agit de reprendre une vie normale.
Lâchons-nous un peu.
Oui, alors voilà, avec respect des gestes barrières, on est bien d'accord.
Et puis qu'on arrête de parler des personnes fragiles, parce que les gens de plus de 70 ans commencent à en avoir marre de cette expression-là.
Oui, c'est vrai. On a quand même besoin de prendre soin les uns des autres. Et
c'est
pour
vrai.
Ça, il faut aller à la rencontre
c'est
des
vrai,
autres. Donc voilà,
vrai,
sortez de chez vous autant que possible. Allez dans les associations.
Ah, comme le slogan de notre association, hein, ne restez pas seul.
Exactement. Moi, le 8 octobre, vendredi, je serai à Rive-du-Loire-en-Anjou pour une projection du film The Phaser, par exemple, qui est un film... alors qu'à l'association France Alzheimer 49, on connaît trop bien, mais c'est important de pouvoir le partager, et j'ai envie de dire, si vous voulez voir ce qui se passe entre les murs, regardez ce film. Il y en a beaucoup d'autres sur la même thématique, mais celui-ci est particulièrement poignant et excellemment bien joué par Anthony Hopkins, qui a reçu un double César.
Ah.
Un double Oscar, qu'est-ce que
pour,
je dis un double
pour
Oscar.
Pour cette interprétation.
Exactement. Donc, précipitez-vous.
Allez, remets dans l'ordre.
C'est ça. Bon, on a un petit peu de temps pour écouter une nouvelle chanson.
Ah, mais bien sûr.
On va se quitter avec Laurent Voulzy, Le cœur grenadine.
Bleu marine, un morceau de mon cœur. Est...
des activités aux associations de nature reprennent pratiquement normal. Et donc, tu as eu le plaisir de retrouver récemment.
J'ai le cœur grenadé.
Vers les associations, c'est grâce à vous qu'elles vivent et c'est grâce à elles que vous vivez de bons moments. Donc on se dit à dans 15 jours, Josiane.
Tout à fait.
À bientôt.
Bientôt.